Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Mais c'est un épisode très spécial car c'est le premier épisode de mon nouveau format qui se nomme AMP, soit autour de mon projet. L'idée est de rencontrer des professionnels qui ne sont pas forcément des entrepreneurs et qui interviennent dans des projets entrepreneuriaux. Aujourd'hui, j'ai pour première invitée de ce nouveau format, Marion, bonjour. Et
bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau format dans mon podcast. Tu es responsable de la ruche à projet à l'EM de Strasbourg et j'aimerais en savoir plus sur ton rôle.
Merci en tout cas de m'avoir invité à ce podcast, ravie d'être là ensemble. Alors, la ruche à projet, donc en fait c'est l'incubateur de l'EM Strasbourg, donc de l'école de management de Strasbourg, hein, donc qui est une école qui fait partie de l'université de Strasbourg. Hein. On a cette particularité qu'on est en fait une business school au sein d'une composante de l'université. Et en fait, au sein de cette business school, bien entendu, il y a énormément de jeunes étudiants qui souhaitent entreprendre. Et donc, c'est là où, en fait, il y a déjà 6-7 ans, en 2013, l'incubateur de l'EM, la ruche à projet, a été créé, à l'époque par une doctorante, Julianne Santoni. Et moi, j'ai pris mes fonctions en septembre 2019 pour redynamiser cet incubateur. Donc la ruche, c'est un incubateur, je l'ai dit assez je crois, au moins 5 fois. Qu'est-ce que c'est? En fait, on a 3 compétences. La première compétence, c'est qu'on propose un parcours d'accompagnement pour justement les étudiants entrepreneurs. Je vous en parlerai un peu après. La deuxième compétence, c'est qu'on propose une solution de financement. En fait, en parallèle de ça, on a créé une association de prêts d'honneur à taux zéro pour en fait permettre aussi à ces entrepreneurs qui souhaitent de pouvoir cofinancer leur premier besoins qu'ils ont pour développer leur projet, typiquement sur des petits montants, hein, 500 euros, 1000 euros, un étudiant qui est incubé à la ruche peut venir en fait et faire une demande de financement de prêt d'honneur à taux zéro. Et la troisième compétence, c'est le coworking, puisqu'on a 844 mètres carrés de locaux au 16 rue de Leicester, une annexe de l'école, pour où les étudiants peuvent venir travailler, collaborer, prendre des espaces, etc., pour que ça soit une vraie ruche et que ça bouillonne, que ça bourdonne plutôt. Voilà. Donc la ruche, en fait, on accompagne, notre mission, c'est qu'on accompagne toutes les aspirations entrepreneuriales des étudiants de l'EM Strasbourg, mais au sein du campus de l'université. C'est-à-dire qu'en fait, dès le moment où il y a une équipe projet qui se constitue, et à l'intérieur de ça, tu as à minima un étudiant de l'EM Strasbourg, toute l'équipe peut se faire incuber à la ruche, en fait. Donc ça, c'est super, parce que notre objectif, c'est que les compétences, un étudiant seul ne peut pas les avoir forcément toutes, et il doit s'entourer d'autres personnes, de collaborateurs qui ont ces compétences complémentaires. Et c'est là où, en fait, nos étudiants vont aller à la recherche d'autres compétences, créer des équipes projets et venir se faire accompagner à la ruche à projet. Voilà, grosso modo.
Donc, il y a quelqu'un qui est de l'université de Strasbourg, mais pas... Enfin, ou même qui est dans une école privée.
Exactement.
Il peut venir s'il a quelqu'un.
Voilà. Si, en fait, dans l'équipe qui constitue, ils s'entourent au moins d'un étudiant de l'EM Strasbourg. Et là, l'accompagnement leur est proposé, du coup, à toute l'équipe, à titre gratuit, du coup. C'est inclus dans le parcours, on va dire, de l'étudiant de l'EM, donc...
Ils sont tous au courant au début de l'année, les étudiants qui peuvent faire ça
Alors en fait, au début de chaque année, donc, on communique là-dessus, sur l'incubateur, auprès de tous les étudiants de l'EM Strasbourg. Donc c'est accessible à tous les programmes. Hein. On communique aussi plus largement au niveau de l'Université de Strasbourg. On a pour objectif de faire, c'est de créer tous ces partenariats avec d'autres composantes de l'université. Là, actuellement, on est en train de faire un partenariat avec l'ESBS, l'école de biotechnologie, qui développe aussi des projets entrepreneuriaux. Mmh. Et ils ont des besoins en compétences, en business. Et nos étudiants sont là justement pour essayer de faire des choses avec eux. Mmh. L'année dernière, on avait collaboré avec le CNAM aussi, pour les étudiants en ingénierie informatique. Ils ont des compétences en développement web. On sait qu'aujourd'hui, hein, les équipes projets qui se créent, le premier besoin, c'est le développement web. C'est notre objectif de pouvoir collaborer avec eux. On a aussi les étudiants de la White Coat School, je pense que tu connais, avec qui on a fait un super projet l'année dernière, un événement. On refait un événement cette année pour que justement les étudiants de la White Coat School puissent développer des plateformes web pour nos étudiants à nous, des solutions. Et eux, ça leur donne de la matière concrète de travail. Et nous, nos étudiants, ils ont appris, en gros, au final, c'est une plateforme web. Donc typiquement, c'est ce genre de collaboration qu'on crée. On communique auprès des étudiants, on leur propose... Et il y a des phases d'incubation qui sont possibles. Du coup, donc là, la première phase d'incubation de l'année 2020 commence, enfin de l'année 2020-21 commence là en novembre. On a fait toute la phase de recrutement, etc., des porteurs de projets. Et on a grosso modo 35 équipes projets qui démarrent l'incubation début novembre.
Vous incubez beaucoup ?
Ouais. En fait, on a eu beaucoup de demandes cette année. L'année dernière, c'était le premier, on démarrait, etc. C'est vrai qu'on a plus fait cette phase de sensibilisation l'année dernière pour faire connaître ce que c'était l'entrepreneuriat étudiant. De montrer que c'était possible, de montrer que c'était accessible et tout ce qu'on pouvait faire pour eux aussi, pour les aider, pour atteindre ce qu'ils souhaitaient avoir, enfin, ce que, là où ils voulaient aller. Et du coup, là, cette année, bah, ça a pris, et c'est super, et en tout cas, on sent que, voilà, y a une effervescence, et la crise du Covid, très honnêtement, a aidé aussi ça. Oui. Au final, ils veulent entreprendre, ils veulent tous être à leur compte, les étudiants, ils veulent, voilà, ils ont des idées, ils ont envie de tester. Mmh. Donc ça, c'est génial.
Ouais, et après, justement, l'aspect autre de... on parlera de la difficulté, justement, d'entreprendre, hein, parce que, à mes yeux, voilà, on est très dans une ère, tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut être à son compte, et il y a des gens qui disent que l'entrepreneuriat, c'est... Le monde entrepreneurial, c'est une obligation, et moi, je suis pas du tout dans cette optique, je me dis qu'il faut des salariés, être salarié, c'est trop bien, en fait, c'est un... Ceci est un confort, et être numéro 2, c'est génial, en fait, et il faut pas trop fantasmer le monde entrepreneurial. Et ils sont 35 équipes, comment vous les répartissez pour leur donner à tous du temps pour gérer leur projet ?
Ce fameux parcours d'accompagnement, donc l'une de nos compétences, c'est un parcours qui se fait de 4 à 6 mois. Donc en fait, en tant qu'étudiant, en tant qu'équipe, tu as une idée de projet, tu postules à la ruche pour te faire incuber, tu rentres dans cette incubation, et en fait, sur ces 4 à 6 mois, tu es accompagné, challengé avec une équipe de coach. Tu as accès à différents types de séances. Donc la première type, la base, c'est la séance collective. En fait, nous, la Ruche à Projet, notre particularité par rapport à d'autres incubateurs en France, c'est qu'on s'inspire de la pédagogie Team Academy, qui est une pédagogie innovante qui provient de Finlande, et c'est vraiment de l'apprentissage par l'action. C'est, l'objectif, c'est d'amener ton porteur de projet sur le terrain, tester son idée auprès du client, le client au cœur, clairement, parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si ton client derrière, en face, bah, il n'a pas envie, bah, tu ne vendras jamais, en fait. Voilà. Donc, on les amène vraiment à la source, on les emmène sur le terrain. L'objectif, c'est qu'ils aillent tester leur idée, qu'ils aillent étudier la concurrence, qu'ils fassent toutes les étapes, bien entendu, études de marché, etc. Mais c'est vraiment plus, en fait, de se dire que, bah, en fait, teste ton idée. Ne sois pas juste dans la création et fais un business plan de 90 pages, ça sert à rien. Mmh. Si en fait, t'as beau te casser les fesses à faire un business plan de 90 pages, mais derrière, si tu vas sur le marché et ton client en face de toi, il te dit, bah non, en fait, ton truc, ça me va pas, bah, en fait, ça sert à rien. Voilà. Donc, c'est vraiment une pédagogie qui te pousse à aller dans l'action, développement de compétences aussi, énormément, de montrer qu'en fait, bah, l'entrepreneuriat, c'est une excuse pour développer des compétences. Donc, de montrer notamment aux étudiants que, en fait, si tu entreprends, si tu testes pendant ta phase d'étudiant, peut-être que oui, tu ne créeras pas la start-up du siècle, mais en fait, tu auras développé tellement de compétences que derrière, niveau employabilité, bah, tu seras au top. Parce qu'en fait, tu montreras que oui, tu as fait plein de choses, tu as testé, tu as essayé de monter une boîte. Ça n'a peut-être pas marché, mais ce n'est pas très grave. Mais en fait, derrière, bah, niveau compétences, voilà, tu es au top. Et la troisième chose de la Team Academy, c'est le développement de la communauté. Super important. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rentres à la Ruche à Projet, tu rejoins une communauté d'étudiants apprenants. Donc, t'es là pour t'entourer d'autres personnes qui vont t'aider à avancer. Donc, c'est pas que des professionnels ou des coachs qui vont t'aider à avancer, c'est tes pairs, en fait. C'est les autres qui t'entourent avec toi, les entrepreneurs qui sont au même stade que toi, qui ont aussi besoin d'aide. Ben, en fait, les uns les autres vont se challenger, vont se faire avancer, vont s'entraider. Et c'est de faire partie de quelque chose, hein, c'est le fameux syndrome de l'entrepreneur solitaire. Et ben, les étudiants qui rentrent à la ruche, au moins, ils ont cet accompagnement, cet entourage d'autres personnes qui sont confrontées aux mêmes problématiques qu'eux.
En moyenne, ils prennent combien de temps par semaine pour travailler sur leur projet ?
Ouais, alors ils font tout ça à côté de leurs études. L'incubation ruche en soi, en termes de coaching, grosso modo, c'est peut-être aller 3 heures par semaine. Mais après, c'est que du travail en autonomie. Mmh. C'est à toi de voir. Si t'es à fond dans ton projet et t'as vraiment envie de te le développer en 6 mois, bah, tu donnes 35 heures, 80 heures par semaine en parallèle de tes études, si tu peux. Tu peux ou tu ne peux pas. Après, si t'es en mode... t'y vas doucement, etc., bah oui, tu donneras 4-5 heures par semaine. Mmh. Et puis, quand tu sentiras que tu auras envie de décoller et de vraiment aller les chercher, bah, tu donneras plus de temps. Donc, je ne peux pas te donner une moyenne. Ouais. Tu vois, je ne peux pas te dire, oui, il passe 30 heures. Non, nous, l'incubation, c'est que 3 heures par semaine déjà. Donc,
que je me dis, faut gérer le statut étudiant-entrepreneur.
Je pense que ce n'est pas facile. Oui. Alors, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas entrepris. Mais pour voir et pour discuter avec tous ces jeunes étudiants voilà, qui testent, etc., déjà, il faut avoir l'envie, faut être motivé, faut savoir rencontrer les bons acteurs, t'entourer correctement. Et c'est vrai que nous, tout ce qu'on fait aussi à la ruche, c'est ça, c'est on essaie de faciliter tout cette mise en contact, cette mise sur l'action, d'action, les pousser, les motiver, les challenger. C'est déjà pas mal, la motivation.
Justement, c'est ça qui est le problème quand on est entrepreneur solo, c'est difficile en fait de monter un projet. De toute façon, ils ne conseillent pas du tout d'être entrepreneur solo. C'est voué à l'échec, c'est impossible.
Je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, c'est vrai que on n'est pas... Enfin, en fait, quel qu'il soit le projet, il y a souvent, tu sais, quand un jeune te présente son idée, etc., tu as des gens en face qui disent « Ah, mais ça, c'est déjà fait, ça existe déjà. » Et alors, en fait, c'est pas parce que quelqu'un l'a déjà fait que tu peux pas le faire, mais d'une autre façon qui fera que ça marchera. Tout autant, voire plus, voire moins, c'est pas ça l'important. C'est plus, en fait, je pense que tu peux être seul dans ton projet, mais en fait, faut t'entourer. Oui. Et tu vois, autant dans le développement de ton projet, je suis d'accord, bien sûr, il y a des tu démarres ton projet, t'as pas forcément envie de t'associer avec d'autres gens tout de suite, ou t'as pas forcément les personnes que tu rencontres, faut t'associer avec quelqu'un, faut que ça matche, hein. Tu t'associes pas avec n'importe qui, je pense, surtout dans un projet comme ça, c'est ton mari ou ta femme de boulot derrière, donc t'as intérêt à, voilà. Je pense que c'est faisable, mais c'est plus cet aspect de communauté pour moi qui est important, de rentrer dans de tous ces gens autour de toi qui vont t'entourer, t'accompagner, t'aider pour développer.
Oui, ça fait une bonne dynamique, et exactement. Au moins quand on a un point, voilà, on ne sait pas, on peut aller poser la question. Et quand je dis que ce qui est top chez vous, c'est quand nous, entrepreneurs qui n'avons pas d'accompagnement, pas de structure, quand on doit demander voilà, un conseil, tout de suite, ouais, mais c'est payant, c'est pas gratuit. Ouais. Donc c'est dur. Après, ça fait le tri. Il y a des personnes très sympathiques hein, qui nous tendent la main, mais c'est pas aussi approfondi. Mm. Genre, si je veux avoir des cours de vente demain, quelqu'un me dise, ouais, écoute, faut. Positionner comme ça, quand tu vends, ben, moi, on m'a proposé de m'aider. On m'a dit, c'est 1200 euros. Ouais, allez, c'est sympa. Voilà, c'est ça qui est difficile. Ouais.
Après, tu as quand même beaucoup de choses qui existent, je trouve. Alors, bon, je connais plus Strasbourg hein, qu'autre chose que le reste de la France, mais je veux dire, à Strasbourg, par exemple, tu as le pôle Pépite Téna, qui est le pôle, justement, qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Ils ont un parcours d'accompagnement aussi, qui est du coup gratuit pour les étudiants. Alors, OK, on est toujours dans cette sphère étudiante, hein. Mais t'as ça, t'as des réseaux quand même, je trouve, qui existent. Mais c'est sûr que oui, on va pas se le cacher, quand t'es étudiant à l'EM Strasbourg, t'as quand même un avantage que derrière, tu as la ruche à projet qui, en plus, est gratuit pour toi. Je dis pas le contraire,
c'est sûr. Ah, mais il faut sauter dessus, en fait. Parce qu'après, on se rend pas compte que si on repousse, les contraintes, elles sont énormes, en fait. Donc autant essayer un projet direct, avoir beaucoup de compétences et reproduire ça...
C'est beaucoup d'étudiants, j'ai souvent la discussion des étudiants qui ont des idées de projet, etc. Puis j'en discute avec eux et ils me disent « Ah mais non, je vais attendre de finir mes études, non. C'est pas le moment. » Et en fait, je leur dis « Ben non, enfin, en fait, c'est maintenant. » Parce que là, t'as pas de contraintes, t'as pas forcément de salaire, de loyer à payer, d'impôts. T'es étudiant, t'as en plus un incubateur qui t'accompagne gratuitement. Profites-en, quoi. Enfin, c'est maintenant, en fait. Et il y en a beaucoup qui ont cette peur, c'est cette histoire de compétences qu'on parlait, ils ont cette peur de se lancer parce qu'ils se disent « j'ai pas assez de compétences pour ». Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est là où j'en reviens à cette histoire de la Team Academy, c'est qu'en fait, bah, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une excuse pour développer des compétences. Et tu seras, encore une fois, même si finalement tu ne finis pas entrepreneur, tu n'es pas à ton compte, bah, tu seras d'autant plus employable sur le marché parce qu'en fait, tu auras fait quelque chose de différent que de juste faire en fait, des stages après stages tout au long de tes études et derrière de commencer à travailler. Et c'est ça qui, je trouve, qui est dommage, je suis d'accord, cette sensibilisation du monde étudiant. On essaye de... C'est ce qu'en tout cas, nous, la ruche, on aspire à faire, ce que tous les gens avec qui on travaille aspirent à faire, c'est vraiment de sensibiliser à l'entrepreneuriat étudiant et de montrer que c'est possible et que c'est le moment de lancer, en fait. Puis au pire, tu n'y arrives pas. J'ai envie de te dire, tu perds quoi, franchement.
C'est ce qu'on se dit aussi, hein. Mais après, quand on a un loyer, etc., ça est plus difficile de relativiser. C'est pas grave, ça ne marche pas, tant pis.
Ouais, si tu as des gosses à nourrir ou tu dois ramener un salaire, bah oui, enfin, je veux dire, c'est plus compliqué de te dire, c'est sûr.
Et comment ils font face justement à l'échec de leur projet ?
Alors, échec. Alors, perso, j'aime pas trop ce mot échec, parce que qu'est-ce que c'est un échec au final ? Est-ce que t'entends échec ou bah...
Ça marche pas.
Ça marche pas, ok. Pour moi, c'est pas forcément un échec, c'est plus en fait, bah, t'as testé ton idée, ça a pas répondu à un vrai besoin sur le marché, bah en fait, c'est plus quelque chose qui devrait te permettre de rebondir. Je sais qu'en France, le système français voit ça d'un point de vue très négatif, l'échec en entrepreneuriat, contrairement à nos collègues anglo-saxons, hein, où alors là-bas, ils sont à fond aux États-Unis, tu vas avoir une banque pour faire un prêt alors que tu as déjà monté 3 startups et qu'elles n'ont pas marché. Ah mais oui, vas-y, ils te reprêtent le fric. Ici, en France, on te regarde avec des yeux, vous avez été en échec. Ah bah non, alors ça va pas être possible. Oui. Donc, je sais qu'en France, c'est plus compliqué. Après, nos étudiants, comment ils font pour surmonter ça, quoi. Ouais. Ça dépend lesquels. Alors, ça dépend du type d'échec. Si en fait c'est un échec dans le sens où bah, tu t'es planté par rapport à ton projet parce que t'as pas en fait vraiment, t'es pas vraiment allé chercher sur le terrain pour être sûr que ce que tu proposais, ça répondait à un réel besoin. En effet, tu peux avoir un certain goût d'amertume, mais si tu ouvres les yeux sur ça, sur la réalité, bah, en fait, ça ne peut que te permettre de rebondir. Je sais pas si tu connais la méthode du lean startup. Bah, en fait, tu pivotes à un moment donné dans ton projet, dans tous les cas. Je veux dire, des méthodes comme le lean startup, le design thinking, ce genre, moi je trouve ça génial parce qu'en fait ça permet vraiment de prototyper, d'aller sur, voilà, que ça répond à un réel besoin et derrière de pouvoir pivoter. Après, ça fait mal. Oui, je pense qu'il y en a qui se prennent des gamelles dans la figure et qui n'arrivent pas à rebondir. Bah, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs, j'ai envie de dire, ou à l'instant T, c'est pas pour eux maintenant et peut-être plus tard. Ou alors qu'il y en a d'autres, bah, il y en a qui arrivent à très bien se relever, hein, ça, hein, journée. Hein. On a des étudiants à l'EM, ils ont déjà créé au moins 4 projets en l'espace de 2 ans, ils recommencent. Hein. Ça
Imagine.
marche pas, je passe à autre chose, tu vois. Donc le problème, on dit toujours dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas tomber amoureux de ton idée, il faut tomber amoureux de ton problème. Et c'est ça souvent la difficulté, on voit beaucoup. Je veux dire, quand tu crées une idée de projet entrepreneurial, il faut que tu partes d'une vraie problématique, de quelque chose. Alors moi, j'ai envie de rajouter une couche. Parce que je suis très sensibilisée à ça, il faut que ça soit une problématique au cœur qui a un impact sociétal, environnemental. Tu réponds à un réel besoin qu'il y a aujourd'hui, une vraie problématique, un vrai problème qu'il y a dans le monde, bah en fait, ce que tu proposes, une solution pour tenter de résoudre ce problème-là, je trouve, hein, pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas fonctionner à l'échelle que toi, tu as envie de lui donner, en fonction de qui tu t'entoures, bien entendu. Toutes les idées du siècle ne vont pas être révolutionnaires. Mais. Je pense que c'est ça. Il faut partir vraiment de ton problème. Et derrière, bah, si ta solution que tu proposes, elle n'est pas conforme, oui, tu changes un truc, tu changes tout, ça dépend. Ça dépend de tout. Alors là, on est large, quoi.
Là, ça dépend toujours du projet
C'est ça.
et de vers quoi ils veulent aller.
Oui.
Et jusqu'à où vous les accompagnez?
Alors nous, à la ruche, ils peuvent rentrer quand ils sont au stade d'idée, comme s'ils sont aussi au stade de commercialisation. On a un de nos projets là, auquel je pense, qui a été incubé l'année dernière, qui recommence chez nous. Parce qu'en fait, ils ont encore un besoin de. Ils ont déjà créé, ils sont en phase de commercialisation déjà, mais ils ont un besoin encore d'accompagnement, ils ont aussi besoin de locaux, ils ont envie d'être entourés d'autres entrepreneurs pour continuer dans cette collaboration. Donc, phase commercialisation, on peut aussi les accompagner, mais après, souvent, les étudiants qui intègrent la ruche, ils sont souvent encore au stade de l'idée, voire un peu de la preuve de concept. Ils sont en train de chercher, voilà, d'être sûrs que, voilà, encore une fois, ce qu'ils proposent, ça répond à un besoin. Et on peut les accompagner jusqu'à la phase de commercialisation, post-commercialisation même, développement, quoi. Nos coachs ont les compétences pour, en tout cas, l'équipe de coach.
Et ils ont été étudiants à l'EM, ils ont été incubés, etc. Et ils ont quitté l'EM et sont toujours à Strasbourg. Et ils continuent ou...
Alors, logiquement, l'incubation se fait sur une période de 4 à 6 mois.
Ah,
Donc
voilà, c'est
après, au
ça.
bout des 6 mois... Logiquement, voilà, c'est fini. Par contre, tu peux recandidater à une incubation suivante. Et en fait, par contre, la particularité qu'on a cette année, c'est qu'on peut accompagner aussi les alumni de l'école. Donc, c'est les diplômés de l'EM Strasbourg. Et ça, c'est grâce à l'association Alumni, on est en négociation. Mais voilà, c'est en tout cas, ils sont prêts à aider enfin, en gros, à payer le coût de l'incubation de la ruche pour ces alumni-là. Donc. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir ça à étudiants et diplômés de l'école aussi.
D'accord, donc ça c'est tout nouveau.
C'est tout nouveau. On est en phase de négociation, mais ça, voilà, ça,
Ouais.
logiquement, enfin, ils ont compris, l'association Alumni a vraiment à cœur de pouvoir proposer ce service-là à ses alumni et à leurs alumni. Il y en a plein qui ont des super projets en finissant leurs études.
Il y a quand même des projets, hein, qui sont sortis de la ruche.
Oui, on a l'année dernière, de ceux qui ont été incubés à la ruche, on en a quelques-uns. Des projets peut-être connus qui ont été incubés à la ruche l'année dernière, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Green Phoenix, donc qui a un projet de collecte des biodéchets et de réutilisation de tous ces biodéchets organiques. Et ils ont fait le concours Alsastec, ils ont gagné le concours Alsastec, et après ils sont venus se faire incuber à la ruche, puisque l'un des étudiants de l'équipe est de l'EM Strasbourg. Et donc typiquement, eux, tu vois, voilà, ils sont en train, je crois, ils ont créé leur structure, ça y est, oui, ils ont créé. Voilà, donc ils sont en pleine phase de lancement, de commercialisation auprès des pros. Voilà, après, il y a l'autre projet, je parlais tout à l'heure, il y a Netfis qui s'appelle, eux, ils ont créé une solution en fait, pour aider les parents d'étudiants à réduire leurs impôts. Voilà, c'est un service qu'ils proposent pour montrer que quand tu es étudiant, en tant qu'enfant, en fait, ça peut permettre de réduire les impôts de tes parents. Voilà, donc ils proposent une solution autour de ça. Eux, ils ont créé la structure, ils ont lancé leur site internet, etc. Il y a aussi une équipe qui s'appelle Mademoiselle, qui lutte contre le harcèlement de rue. C'est une association. Eux, ils ont donc l'équipe des filles ont développé le projet pendant leurs études de bachelor l'année dernière. Et après, elles ont poursuivi sur l'incubation de la ruche. Voilà, typiquement. Et il y a une nouvelle équipe qui a pris, si j'ai bien compris, aux dernières nouvelles, de nouvelles personnes qui ont intégré l'association, mais ils sont en pleine phase de lancement. Voilà. Donc oui, il y a de la création. Après, il y en a d'autres qui se rendent compte que voilà, c'est pas le moment ou c'est quand même minime. Enfin, la création finale par rapport au pourcentage de projets accompagnés, la phase de création n'est quand même pas, c'est pas 50%, c'est sûr. Mais parce que finalement, au moins c'est bien. Ils testent avant de créer. Ils vont essayer d'aller voir, voilà, tester leur idée, se faire accompagner. Et puis quand ils sont sur la phase de création, c'est qu'on va dire il y a une sorte de sécurité parce que t'es sûr en fait un peu de ton projet et tu sais que c'est un truc qui peut fonctionner potentiellement.
Et ça va, ils relativisent quand ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup envie d'entreprendre, mais en fait qu'ils se rendent compte que c'est pas pour eux, c'est pas grave.
Ouais, je pense que oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui, bah, ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux, puis que le Eldorado de l'entrepreneuriat, c'est pas si Eldorado que ça. T'en sais quelque chose, Priscilla, je pense.
Pas le Eldorado. Mauvais Eldorado.
Bah, on va dire que oui, tes rêves de start-upper où la première année tu dégages, tu te fais un salaire déjà de 3000 euros net par mois, non, c'est pas ça. C'est plutôt tu commences à l'envers, c'est tes trois premières années, tu te tires pas de salaire clairement, et après on en reparle quoi. Donc. Je pense que oui, ça aussi, ça en freine quelques-uns quand ils se rendent compte de cette réalité. Mais après, ceux qui ont vraiment envie, ils y arrivent.
Non, je pense mais c'est la volonté.
Tout est possible quand tu veux.
C'est juste, il faut faire, des concessions. C'est les gens de la Roche-Brochard qui disaient, je ne sais plus le terme, mais qu'il fallait faire le deuil de certaines choses. Ceux qui font un million de chiffre d'affaires par an, la première année, c'est parce que derrière, ils ont planté 3-4 boîtes. Voilà, c'est pour ça, en fait, qu'au prorata, ils arrivent. Malheureusement, non, logiquement. Mais il faut accepter l'échec des 4 autres.
Tout à fait. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas être amoureux de ton idée, mais plus de ta problématique, puisqu'au final, tu peux re-avoir une idée par rapport à ta problématique initiale. Mais ceux qui s'accrochent trop à leur idée...
Il y a aussi un truc que j'ai appris récemment, c'est ne pas être son projet.
C'est-à-dire ?
Parce que j'en parle, parce que j'ai vécu ça, et je suis mon métier. En fait, non, je suis Priscilla, je suis pas data analytics, c'est mon taf, mais je suis pas juste ma boîte, en fait. Je suis pas mon podcast. En fait, c'est pour arriver à prendre du recul, parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui basculent dans la dépression au bout d'un an. C'est toujours ça, un peu. C'est assez marrant, c'est un an, c'est burn-out. Et le branding incarné, c'est bien, mais par contre, être et vivre sa boîte dans le cœur, et ben en fait c'est le crash psychologique assuré, même si ça marche.
C'est une question d'implication. Tu mets tes tripes et ton sang et tu es complètement à fond dans ton projet, mais si tu ne vis que pour ça, si tu te plantes, tu te détruis. Ensuite, si derrière ça marche, mais tu fais que travailler et tu n'as plus de vie personnelle derrière, tu te détruis aussi. C'est l'équilibre.
Je pense que les coachs, ils doivent aussi apprendre ça aux entrepreneurs, de savoir tout gérer et se calmer peut-être.
Je pense qu'ils ont l'expérience pour avoir accompagné plein d'entrepreneurs et être eux-mêmes entrepreneurs. Ils ont ce recul et cette expérience, en effet, pour tenter de faire comprendre aux jeunes que oui, t'as un super projet, oui, t'y vas à fond, mais aussi pense à toi, prends du recul. Et surtout, c'est prendre de la hauteur par rapport à ton projet. Je pense que c'est important à un moment donné dans le développement de ton projet, c'est qu'en fait, tu arrives à te détacher de ce projet et tu le regardes d'en haut pour avoir une vision extérieure. Et c'est pour ça qu'aussi c'est important d'avoir cette vision extérieure des autres personnes autour de toi. Parce qu'en fait, si tu as personne qui te fait le feedback sur ce que tu fais, ce que tu dis, etc., tu n'avances pas. Tu restes dans ta spirale et tu tournes tout le temps en rond à rester sur ton projet, ton idée, sans évoluer. Et donc, ce regard extérieur, c'est ce qu'en tout cas, oui, que l'équipe de coach. Ça mène à pour objectif, c'est aussi de les pousser, déjà d'eux d'avoir un regard extérieur là-dessus, et ensuite de les pousser eux-mêmes en autonomie à avoir ce regard extérieur sur ton projet.
Ouais, parce que je pense que beaucoup On dit faire l'erreur, et justement, ils enseignent ça. Genre Rémi Perla, je sais pas si tu vois qui c'est.
Si, oui, bien sûr.
Ben, il m'a raconté que pendant un an et demi, il était cloîtré chez lui, on ne parlait à personne, parce que c'était l'idée du siècle, etc. Voilà, tous les trucs un peu qu'il ne faut pas faire. Et il n'a pas pris assez de recul sur son projet, il s'est donné à fond, et après, il a fait quoi? Il l'a mis dans un tiroir. Pareil, il n'avait pas parlé à la bonne cible, il a arrêté. Enfin, je pense qu'il avait besoin d'arrêter ce projet.
Pour moi, c'est l'erreur du siècle. En tant qu'entrepreneur, de se dire je vais en parler à personne, c'est mon idée, j'ai peur qu'on me la pique. Alors ça, ils nous le disent tous, les étudiants. Et ils nous disent bah, j'ose pas trop en parler parce qu'on va me la piquer. Et ce que tous mes coachs leur répliquent à chaque fois, ce que moi je leur dis, ce qu'on leur dit tous, c'est de toute façon, un projet, une idée n'est rien sans son porteur de projet. Donc même si toi t'as l'idée, alors à moins que t'aies un truc, je sais pas, où faut que tu déposes un brevet, dans ce cas-là, dépêche-toi de déposer un brevet pour être sûr qu'on te la pique pas. Mais sinon, en soi, une idée, je veux dire, tu développes une application, t'inquiète pas, c'est toi tu l'as eu, mais il y a au moins 5 milliards d'habitants derrière qui l'ont eu, l'idée, en fait. Enfin, j'exagère, 5 milliards, mais c'est pas possible, en fait, que tu sois seul sur la planète à avoir eu cette idée. C'est juste impossible, en fait.
Ils disent que toutes les idées entrepreneuriales ont été faites.
Ah oui, je pense, oui. Voilà. Ça j'en douterai pas. Qui a été faite à un moment donné. Oui. Même si c'est au fin fond du Vietnam, par quelqu'un qui l'a fait dans son village, qui l'a testé, je pense que oui. À l'échelle quelle qu'elle soit, oui, je pense que ça a été testé. Donc c'est juste en fait te dire qu'au contraire, plus t'en parleras, plus tu t'enrichiras, plus tu enrichiras ton idée, plus tu enrichiras ta problématique, et plus tu proposeras quelque chose de beaucoup plus adapté. C'est en tout cas, nous, les valeurs qu'on porte à la ruche, le credo. Voilà ce qu'on dit en tout cas aux étudiants, parlez-en un maximum, échangez, parlez, discutez, réseautez, rencontrez, entendez le feedback et ajustez aussi en fonction de ce qu'on vous dit. Pas tout le temps, bien sûr, faire le tri, oui. Mais voilà.
Oui, parce que si on parle de ce qu'on veut faire à pas forcément notre cible, quelqu'un d'un peu défaitiste,
parlons-en, les parents. Tant qu'étudiant, c'est toujours le problème, hein. Nous, on a plein d'étudiants qui nous disent justement, moi j'ai trop envie d'entreprendre, mais c'est vrai que mes parents, ils ont peur, pour eux, il faut plutôt que j'aille sur la voie des stages, du travail, chercher du boulot, etc. C'est une autre génération, nos parents. Hein. Je veux dire, voilà, quand t'es dans la génération que t'es née entre 90 et 2000, je veux dire, même avant, même j'ai envie de dire entre 80 et 2000, bah oui, bien sûr que tes parents, ils vont avoir peur pour toi, mais on est tellement une génération, je m'inclus dedans, hein, j'ai 29 ans. On est tellement une génération changeante. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais attiré de me dire je vais sortir de mes études et je vais signer un CDI et rester toute ma vie pendant 40 ans dans une boîte. Alors là... et je pense que pareil, toi. Donc, oui. On est tous là. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut se lancer, il faut tester, il faut expliquer à nos parents, il faut leur faire comprendre voilà, que bah, en fait, c'est juste ta passion. Et de t'entourer des bonnes personnes et en parler à un maximum de personnes. Et comme tu dis, ne pas s'arrêter sur ce que les premières personnes vont te dire et te casser sur ton projet en te disant bah non, t'as pas les épaules pour, ou t'es pas assez comme ça, t'es pas assez comme ci, ton idée elle est nulle. Non, bah oui, ça c'est sûr.
Y a déjà eu des parents qui t'ont appelé en stress ou...
Moi non, mais mon directeur, Didier Verly, qui est le directeur de la ruche, lui je pense que oui, à mon avis. Et il pilote le programme Bachelor aussi, il est directeur du programme Bachelor de l'EM. Oui, oui, les parents, je pense stressés, à mon avis, oui, il a dû en avoir.
Et justement, quand ils ont testé ce parcours entrepreneurial, est-ce qu'ils changent un peu du mindset? Enfin, ils ont plus confiance en eux, ils se disent « ouais, je suis capable de faire des choses, même si ça n'a pas marché, j'ai appris en compétence. »
Ouais, franchement, de l'année dernière, de ce que j'ai vu, par rapport aux étudiants qui ont entrepris dans le cadre du parcours, enfin, à la ruche à projet, il y en a qui ont du coup bah, ils ont testé leur idée, ça n'a pas marché, mais en fait ils sont beaucoup qui sont venus me voir en me disant bah ouais, en fait j'ai développé plein de compétences, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de choses qu'en fait je ne pensais pas être capable. Et c'est ça qui est important, ça te redonne de la confiance en toi, ça te permet de te rebooster, de réavancer et de faire valoir ses compétences au profit d'autres choses aussi. Donc oui, franchement.
Et pour toi, est-ce qu'il y a un projet qui est sorti du lot en
fait ? Green Phoenix, moi, j'aime beaucoup pour leurs valeurs, parce que c'est aussi des valeurs que je porte énormément, voilà, pour me dire qu'il faut trouver des solutions à ce type de problème aujourd'hui. Donc je trouve ça un super projet, c'est une super équipe. Et en plus, c'est 6 étudiants, ils sont 5, je crois, issus d'écoles différentes. Il y en a de l'ENGES, il y en a de l'INSA, il y en a de l'EM. Voilà, donc ça, c'est génial, je trouve, ça fait une équipe vraiment... pluridisciplinaire. Après, l'équipe Mademoiselle, là, l'association, moi je les avais accompagnées aussi dans l'année en parallèle de la ruche. Moi je trouve que, enfin, je les ai vues au début du projet, je les ai accompagnées, elles étaient, voilà, elles cherchaient, elles n'avaient pas trop confiance en elles, etc. Et c'est vrai qu'après je les ai vues vraiment prendre, gagner en confiance, en maturité, se rendre compte ce que c'est de piloter un projet de A à Z, de tout créer. Et puis elles ont, je pense, même pas compris comment ça a décollé d'un coup. C'était en février de l'année dernière, elles ont commencé à apparaître dans tous les articles. Pouka a fait un article sur eux, sur elles, et boum, ça a fait effet boule de neige, et voilà. Et ouais, c'est des typique des projets comme ça, de jeunes de 20 ans, tu te dis, waouh, mieux que des dirigeants d'entreprise qui ont 50 balais. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça génial, cette richesse de ce que sont capables de faire, de ce qu'est capable de faire cette génération. C'est incroyable.
Oh, ouais. On n'a pas la même sens, on n'a pas, je pense, la même sensibilité que les générations d'avant, on n'a pas les mêmes problématiques. Et tu donnerais quoi comme conseil aux étudiants qui ne peuvent pas intégrer la ruche parce qu'ils ne sont pas à l'EM, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Alors, la première chose, c'est de chercher s'il n'y a pas des solutions quand même pour se faire accompagner de façon gratuite. Typiquement, j'en ai parlé avant, le pôle Pépite Téna, qui propose quand même un super parcours d'accompagnement et c'est ouvert à tous les étudiants de l'université. Donc voilà, t'es étudiant, bah, en fait, va te faire accompagner. Déjà, rien que ça, tu auras une base au moins, tu auras des choses super et ils sont vraiment top. Leur parcours est vraiment super. Après, si en effet, tu n'as pas vraiment ça, c'est de rentrer en relation, de te faire entourer, de tenter de contacter des personnes à droite à gauche qui sont prêtes à t'accompagner. Pas t'accompagner, mais au moins un mentorat ou te donner des conseils. Typiquement des start-upers, des jeunes start-upers. Des gens, je prends l'exemple de, je t'en parlais tout à l'heure, d'un de mes coachs aussi à la ruche, Adrien Collot, qui a créé New. Alors lui, je crois qu'il accompagne plein de jeunes entreprises gratuitement, mais parce qu'il adore ça en fait. Et déjà, il est à fond à l'heure, et il fait 10 000 choses à la fois. Il aime ça et en fait, il a envie de donner de son temps pour aider à d'autres d'avoir la chance que lui a eue en fait. Et je pense qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs comme ça qui sont prêts à faire ça, mais gratuitement, tu vois. Donc je pense que c'est important de te faire entourer quand même par des gens qui ont vécu ce que tu vis actuellement. Et voilà, et t'as plein de gens qui seraient prêts à donner de leur temps. Alors oui, il y en a sûrement qui font payer. Fais chercher des gens gratuitement quand même.
Et Adrien, lui, voilà, il n'est pas passé par une ruche, il est allé dans les soirées entrepreneurs. Il a essayé de taper dans les bonnes personnes pour son projet, en fait.
Voilà, Adrien, non, il ne s'est pas fait accompagner quand il a créé New. Tu vois, donc la preuve, c'est que c'est possible. Ne pas hésiter, LinkedIn, c'est un outil. Enfin, moi, perso, je suis vraiment pro LinkedIn à fond, je trouve ça génial. Ça te permet de contacter qui tu veux, un gros dirigeant d'entreprise, tu peux le contacter grâce à LinkedIn. Ne pas hésiter à utiliser cet outil-là, vraiment. Contacter les personnes. Moi, si quelqu'un m'écoute en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas de l'EM Strasbourg, n'hésitez pas à me contacter, même si c'est pour des conseils, etc., pour vous aiguiller vers d'autres choses. Contactez les bonnes personnes qui vont pouvoir vous renvoyer vers d'autres bonnes personnes, s'il faut. Voilà, enfin, vraiment ne pas hésiter. Avoir du culot, hein. C'est comme ça que tu avances aussi.
C'est pour moi une des qualités principales, mais pour toi, quelle est la qualité principale pour se lancer dans un projet ?
Pour se lancer dans un projet, la qualité principale, il faut oser. Pas avoir peur et pas avoir peur de l'échec. Pas avoir peur de te planter. Parce que tu peux te planter, mais tu vas recommencer, si tu as vraiment envie. Ça répond aussi à cette histoire de motivation, c'est d'être bien entouré des bonnes personnes, des personnes autour de toi, tout ton environnement familial, amical, etc. C'est important d'être bien entouré et derrière aussi pro.
Bah, merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau format.
Bah, merci à toi, c'était top. Ravie d'avoir inauguré ça.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.